Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce n'est pas un des moindres paradoxes que le Covid-19, épidémie ultramondialisée affectant la moitié de l'humanité, soit aussi celle qui nous fait sentir les plus seuls au monde. Confinés, enfermés, isolés, quand ce n'est pas en quarantaine ou seuls dans une chambre d'hôpital, nous nous épuisons à multiplier les barrières entre nous et les autres, entre nous et le monde, à construire nos propres isolements, à dessiner nos propres prisons pour nous éloigner des autres, tous ensemble, le plus loin possible. Nous nous sommes pourtant demandé aujourd'hui si c'était vraiment le cas, si le virus traversait véritablement les frontières de la même façon, s'il pensait pareil partout, s'il ne prenait pas des accents locaux, s'il n'offrait pas des spécialités nationales. Les mesures mises en place par les gouvernements diffèrent, les façons de les appliquer aussi. Certains insistent sur la sécurité, d'autres sur la liberté. Certains pays s'en sortent avec un fort consensus et d'autres plongent. C'est donc un petit aperçu de nos différences face au virus, tout de suite à Taïwan, à Rio et à Pékin. Le premier volet d'un petit tour du monde. Avec Marianne à Pékin, on se souviendra que d'après le bilan officiel chinois, il y a eu 83 303 cas de coronavirus confirmés et 3 338 morts seulement, si j'ose dire, sur 1,5 milliard d'habitants. Le dernier bilan à Taïwan s'élève à 376 cas confirmés et 5 décès sur 23 millions d'habitants, dont Inès, avec qui vous ferez connaissance. Au Brésil enfin, 17 000 cas confirmés et 941 morts sur 210 millions d'habitants. Mais ce sont évidemment des chiffres à prendre avec de grosses tenailles. Le corona vu d'ailleurs, c'est tout de suite dans les pieds sur terre par Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sandra Cogut, je suis réalisatrice et je me trouve en ce moment à Rio de Janeiro, au Brésil. Ici, on n'est pas confiné comme en France, c'est différent. On dit qu'il faut rester à la maison, les gens sont chez eux. Mais tout est fermé, il n'y a que les supermarchés, les pharmacies qui sont ouverts. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour faire en sorte que les gens restent chez eux. Mais il n'y a pas d'amende, ce n'est pas obligatoire comme c'est en France. Alors, je suis chez moi avec ma fille de 11 ans, à l'école virtuelle, donc à la maison. Je ne suis pas sortie de chez moi depuis le 18 mars. J'ai une femme qui travaille ici, que j'ai demandé de rester chez elle, que je continue à payer normalement. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire, puisque le gouvernement ne fait pas sa part. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée donc sans aucune aide, à tout faire toute seule chez moi. Je vais m'occuper du déjeuner, je vais aider ma fille avec ses devoirs, je vais organiser les courses, je vais faire un peu de ménage, enfin voilà. La situation au Brésil par rapport au coronavirus est très chaotique, on peut dire. Parce qu'on a un président d'extrême droite qui n'est pas du tout dans des questions sociales et qui se voit tout à coup à devoir aider sa population et qui n'a pas vraiment les moyens. Et puis Rio, comme d'autres villes au Brésil, mais Rio, la ville a beaucoup de favelas. Donc à Rio, par exemple, les gens sont en train de s'organiser de façon un peu indépendante. Il y a beaucoup de groupes d'entraide, de solidarité. C'est ça vraiment qui est le plus fort à Rio. Il y a beaucoup de dons, d'organisations pour donner de la nourriture et des aliments, de cotisations d'argent pour aider les quartiers les plus démunis. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'organisent, mais qui sont des organisations locales. Ça ne vient pas du gouvernement, malheureusement. Au niveau du gouvernement, ça aurait pu être beaucoup plus organisé, mieux fait, s'il y avait eu une vraie relation avec toutes les associations et tous les gens qui travaillent pour aider les différents groupes et surtout les plus vulnérables. Alors, le président Bolsonaro, qui est un président qui a toujours eu du mépris pour la science, est dans une attitude de déni total de la gravité, en disant que c'était un petit rhume, une grippe, que c'était pas grave, en sortant dans la rue, en serrant la main de tout le monde, en disant qu'il est contre toutes les mesures de confinement ou de quarantaine, enfin tout ce qui est resté à la maison. Il est très inquiet pour l'économie, comme si ça c'était le plus important. Il a donné des déclarations en disant « oui, il y a des gens qui vont mourir, c'est la vie, qu'est-ce que je peux faire ?» Enfin, il y a eu des moments où il a fait des déclarations comme quoi « oui, c'est un grand challenge, il faut que nous soyons unis, etc. » Comme si il avait compris que effectivement, c'est une crise très grave et qu'il faut prendre toutes les mesures. Mais chaque fois qu'il a fait ça, quelques heures plus tard, il commençait à poster des fausses vidéos en provoquant de la panique, en disant qu'il fallait absolument rouvrir tout le commerce parce que le pays allait s'effondrer, etc. Donc, il continue en fait complètement isolé et le pays avance en parallèle, on va dire. Il y a le président qui est de plus en plus isolé et il y a les initiatives indépendantes des gouverneurs, il y a toutes les mesures que prend son ministre de la Santé qui de temps en temps est menacé de se faire virer, mais qui pour l'instant continue à son poste. Donc tout ce qui est fait en ce moment pour gérer cette pandémie au Brésil vient surtout de l'initiative de son ministre de la Santé, qui lui est un médecin et quelqu'un qui prend très au sérieux toutes les recommandations de l'OMS. Donc c'est comme s'il y avait deux gouvernements. Dans cette situation de quarantaine, il y a une chose qui est vraiment très intéressante par rapport à gouvernement Bolsonaro, c'est que tous les soirs à 20h30, les gens vont à leur fenêtre taper sur des casseroles et crier contre Bolsonaro. C'est un genre de manifestation qui s'appelle en portugais panelaço. Panela, c'est casserole. Tous les soirs, depuis presque une vingtaine de jours maintenant, dans tout le pays, et c'est une manifestation assez large en fait, parce que il y a des bourgeois, il y a des classes moyennes, il y a des populaires, enfin, il y a différents groupes sociaux. Enfin, c'est une manifestation qui est vraiment bruyante. Et il y a maintenant des gens qui ont fait des chansons, il y a des projections sur les immeubles, il y a de tout. Par exemple, dans mon quartier, il y a un DJ qui, tous les soirs, il a fait un enregistrement. Préparez vos casseroles, préparez vos gorges, vos poumons pour hurler. Il y a plein de remix, de funk, de samba. Enfin, maintenant, ça a évolué. Les gens utilisent des haut-parleurs qui placent à leurs fenêtres et les gens crient « Nous sommes en danger, vous êtes un assassin, fasciste, fora Bolsonaro ». Dehors Bolsonaro, c'est fini, vous n'êtes plus président, c'est fini. C'est devenu aussi un slogan. Et ils tapent très fort sur les casseroles, ils ont des sifflets, et c'est très impressionnant parce que c'est dans toutes les fenêtres, ça traverse les quartiers comme ça. C'est comme un grand écho de voix de gens qui sont coincés chez eux et qui protestent. La foule, la masse sonore, c'est vraiment assez puissant. Moi, je hurle, ma fille hurle. Et parfois, il y a des guerres sonores comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont des haut-parleurs avec des micros et qui font des discours. Il y a une partie des gens qui ont voté Bolsonaro qui regrettent et qui manifestent. Et il y a aussi quelques fanatiques, quelques personnes isolées qui, pendant ces manifestations, font une espèce de guerre sonore. Nous, on a un voisin ici qui, systématiquement, met une chanson qui dit quelque chose dans le genre « Allez travailler, vous êtes des vagabonds ». Donc, il met cette chanson très fort, ou sinon, il hurle des choses contre la manifestation. Moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me rend assez optimiste. C'est le sentiment qu'on est arrivé vraiment à une limite du capitalisme. Ici, par exemple, au Brésil, où est au pouvoir une vision extrêmement néolibérale du capitalisme, cette idée qui est de vraiment chacun pour soi, et j'ai le sentiment qu'on est arrivé au bout de ça. Je me demande beaucoup comment va être le monde quand on va sortir de ce tunnel. Et l'idée que ça sera un monde où finalement les priorités vont être repensées, où il va y avoir plus de solidarité, où des gens qui vont avoir de la valeur vont être les scientifiques, les médecins et pas les banquiers. Ça me rend plein d'espoir.
Mes amis m'appellent Inès, mais mon prénom chinois c'est Chen Bixuan. J'ai 32 ans, j'habite à Kaohsiung. Aujourd'hui, je me lève à 8 heures. Je prends un petit déj à la maison. Après, j'ai fait un peu de ménage, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. Ensuite, mon voisin m'a demandé de réceptionner son colis parce qu'il est au travail et il ne pouvait pas le réceptionner. Il a acheté des nourritures congelées en ligne. Il anticipe un peu le potentiel confinement. Moi aussi, j'ai envie de passer quelques commandes en ligne, au cas où. Ma maman, il y a 2 semaines, elle m'avait envoyé un message. Pour moi, c'est un rumeur disant que, ouais, il y aura bientôt la rupture de stock alimentaire. Du coup, elle a paniqué et puis tout de suite, elle est allée au supermarché pour acheter des nourritures pour stocker à la maison. Le lendemain, le gouvernement a dit de ne pas avoir peur parce que la production taïwanaise suffit largement pour nous. Et donc, la situation est tout de suite calmée. Pour l'instant, on gère pas mal le coronavirus. Jusqu'à aujourd'hui, on a annoncé 322 cas confirmés. On a eu malheureusement 5 morts. Mais comparaison avec les autres pays étrangers qu'on voit, la situation, le gouvernement taïwanais gère plutôt bien. On a distingué le premier cas le 21 janvier. Et tout de suite, 2 jours après, le gouvernement a interdit l'exportation des masques. Parce qu'en fait, la Chine nous exporte 93%. Donc, en fait, on ne fabrique pas assez les masques ici à Taïwan. Et ensuite, quelques jours après, ils ont aussi interdit aux Chinois de voyager à Taïwan. Et aussi, ils ont interdit à l'entrée des navires au passage de Chine, Hong Kong, Macao. Et ensuite aussi, en mars, les mesures sont encore plus strictes. Il y a des possibles amendes pour les Taïwanais, par exemple, qui assistent de faire des voyages non nécessaires à l'étranger. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la situation de confinement nécessaire. C'est parce que le gouvernement a réagi très vite et il arrive à contrôler la situation. C'est pour ça qu'on est toujours permis à balader dans la ville. tout est ouvert à Taïwan aujourd'hui, mais j'entends parler aussi, les universités sont en train de discuter pour les apprentissages à distance potentiels, au cas où ce sera nécessaire de fermer les universités. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et, les hôtels, par contre, ils ont plus d'impact parce qu'il n'y a plus de voyageurs étrangers. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y a des hôtels de quarantaine pour aussi aider à lutter contre le coronavirus. Et ensuite aussi, le gouvernement a recruté les compagnies de taxi pour pouvoir transporter les gens de quarantaine. Maintenant, j'essaye de limiter les sorties. Par exemple, avant, je travaillais, étant un freelance, je travaillais au café tous les jours. Mais maintenant, j'y vais au café deux fois par semaine. Et ensuite aussi, pour voir mes amis. Au lieu de se voir au café ou au restaurant, on se voit chez l'un et l'autre. Quand je vais au restaurant, les gens de restaurant vont prendre ma température pour assurer que je n'ai pas de fièvre. La plupart des magasins, ils ont de l'alcool à notre disposition pour désinfecter nos mains avant de rentrer. Et puis, je lave très souvent mes mains. Et quand je sors, si c'est dans un espace plutôt fermé, je mets mon masque. J'ai le droit d'acheter 3 masques par semaine, mais à partir de cette semaine, j'ai le droit d'acheter 9 masques pour 2 semaines. Je me souviens très bien qu'en mars, j'ai travaillé avec les journalistes étrangers, une équipe de production française, et ils avaient des masques. Et moi, j'étais très surprise parce qu'en Europe, ils n'ont pas cette habitude de mettre un masque. En fait, ils m'ont expliqué, c'est les chauffeurs de taxi qui leur ont donné le masque parce que c'est obligatoire. Et je m'en souviens que il y avait un journaliste qui se moquait un peu, genre que les Taïwanais sont trop prudents. Mais ensuite, il a vu la France, ça devient plus grave. Et donc, il s'est intéressé à savoir comment ils peuvent obtenir des masques à Taïwan. Mais comme la vente est contrôlée par le gouvernement, donc, je suis allée aux pharmacies faire la queue pour acheter des masques pour eux. Et aussi, les Taïwanais ont eu peur d'avoir des contacts avec les Français parce qu'on entend aussi que la France a plus de cas confirmés dans un très court temps. Ils ont plus de cas que Taïwan. Et moi, je trouve que c'est un peu ironique parce que au tout début de ce coronavirus, à Paris, j'entends parler qu'il y a les Français qui sont pas très sympas avec les Asiatiques parce qu'ils voient pas la différence des Asiatiques ou les Chinois. Donc, il y a des Asiatiques qui se font agresser ou se font se moquer quand ils mettaient des masques. À Taïwan, c'était un peu le cas contraire. C'est les Taïwanais, ils avaient un peu peur des étrangers. Les Taïwanais suivent les règlements donnés par le gouvernement sans avoir trop de problèmes. C'est un côté culturel. Par exemple, moi, j'ai la confiance avec mon gouvernement, parce que les informations sont transparentes. Mais aussi, je pense que nous, on a vécu le SARS avant, et le gouvernement, à l'époque, ils ont eu l'opportunité de réviser le système administratif, et il s'est doté de protocoles techniques, médicaux, etc. Donc, je pense que Taïwan, aujourd'hui, a plus d'expérience de lutter contre ce genre de pandémie, dont je me sens sécurisée, je peux faire confiance à mon gouvernement.
m'appelle Marianne Daquet, je vais avoir 42 ans. J'habite à Pékin depuis 14 ans. J'ai 3 filles, une petite fille qui est née il y a 3 semaines. Et voilà, j'ai monté une école d'art il y a 8 ans. Une belle école avec 3 espaces, 250 élèves. Et j'ai dû fermer tout avec l'arrivée du virus parce que le gouvernement chinois nous a fermé sans préavis, a obligé sans préavis toutes les écoles et les centres d'éducation à fermer. Donc là, on est à Pékin et on attend de voir où cette vague liée au virus va nous emmener. Tout s'est arrêté, je dirais, il y a 11 semaines, le 24 janvier. Au tout début, les autorités ont été un peu absentes. Il y a eu un espèce d'état chaotique où ce sont les gens, en fait, qui se sont confinés. En fait, on n'a jamais reçu d'ordre de confinement, en tout cas à Pékin, par les autorités. Le seul endroit qu'ils ont confiné, c'est le Roubaix. En fait, ils ont fermé la province. Et à partir du moment où la province a été fermée, il y a eu une espèce de vent de panique. Les gens ont tellement peur ici des mensonges, ils ont tellement pas confiance, ils se sentent tellement en insécurité que très vite ils se sont confinés. Moi, je me suis pas confinée tout de suite, je continuais à aller au travail, je disais non, on va y arriver, on va garder des élèves. Et en fait, j'ai été obligée de fermer parce qu'il y a des parents qui nous ont dit « vous faites pas attention à la santé des enfants, si vous restez ouvert, on vous dénoncera ». Chaque jour, il y avait des nouvelles, on suivait au jour le jour le nombre de cas, le nombre de morts. Et ensuite, il y a eu la prise de température un peu partout, au supermarché, au restaurant, à l'entrée des résidences, tout le monde prend la température. On a 32,3, mais ça dérange personne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait semblant de contrôler les gens, mais de toute façon, on ne les contrôle pas parce que les thermomètres ne marchent pas, parce qu'on ne s'approche pas vraiment de nous. Mais voilà. Et donc, en février, petit à petit, les mesures se sont raidies, alors qu'on était de plus en plus en sécurité, en quelque sorte, parce que de moins en moins de cas à Pékin, les chiffres officiels, c'est 300 cas à Pékin. Donc, on s'est retrouvé dans une situation un peu absurde où on était confinés depuis des semaines. On est beaucoup à avoir perdu notre travail et on n'a pas compris ce qui se passait. On était sonnés, hébétés. Moi, j'ai passé au moins un mois sidéré par ce qui se passait. Je comprenais pas, je disais, mais s'il y a 300 cas à Pékin, pourquoi est-ce que tout s'est arrêté et il n'y avait personne dans la rue? Pékin, c'est une espèce de ville qui vit tout le temps, une ville qui s'arrêtait jamais. On entend les oiseaux maintenant. Et maintenant, les gens commencent à ressortir. Les gens sont là dans la rue, ils prennent le soleil, ils jouent avec leurs enfants. Et c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, parce qu'encore une fois, on n'a pas eu d'ordre de fin de confinement. Mais il y a un espèce de mouvement, parce qu'il n'y a plus de cas à Pékin. Et Pékin est fermé maintenant, c'est clos, on ne peut pas sortir de la ville, on est enfermé dans la ville, donc on est dans un espace clos qui est la ville, notre quartier, un peu plus grand, si on veut aller au parc, etc. Il y a des restaurants qui rouvrent, mais en fait, on sort de nos appartements, mais on est confiné dans la ville. Maintenant, le gouvernement a retourné la situation et donc ils ont fermé les frontières avec une espèce de discours public qui dit le virus arrive de l'étranger, c'est les étrangers qui l'amènent et donc on a fermé les frontières et donc les étrangers n'ont plus le droit de rentrer. Et donc en fait, il y a une espèce de discours raciste public, gouvernemental. Donc en fait, maintenant à Pékin, il y a des bars qui rouvrent mais qui n'ont pas le droit d'accepter les étrangers. Ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je ne veux pas être prise à partie dans la rue avec mes filles et je sais que ça arrive en Chine et parce que je lis des témoignages, etc. Mais c'est arriver dans un restaurant, dans un bar et s'entendre dire « bah non, en fait, vous êtes étranger, donc vous ne rentrez pas », c'est violent, quoi. Et on sait très bien que ce n'est pas les patrons de bar, mais que c'est une politique nationale, quoi. Pour trouver un bouc émissaire, pour cacher la réalité de ce qui s'est passé ici, plutôt que d'écouter les gens de Wuhan, vaut mieux s'énerver contre les étrangers. Et depuis le début, avec mes proches, on se dit c'est pas possible, on n'a pas arrêté le pays pour 3000 morts à Wuhan, dans le Roubaix, 300 cas à Pékin. C'est pas possible. Enfin, moi, j'ai pas tout perdu pour 300 malades à Pékin. Et je sais pas combien ils ont annoncé à Pékin. Je pense que c'est moins de 10 morts. Enfin, voilà. Et on sait bien que c'est pas vrai.
Et d'ailleurs, ça me choque tellement de lire dans tous les journaux, il y a tant de cas en Italie, il y en a plus qu'en Chine, alors qu'on sait très bien que le monde n'a pas envoyé des avions, etc., pour 300 cas à Pékin. On n'aurait pas tout arrêté un gros pays comme ça. Ça fait 11 semaines que ça dure. Il y a beaucoup de Chinois qui ont tout perdu. Tous les gens qui travaillent dans le tourisme, tous les gens qui ont des bars, des restaurants. Enfin, c'est terrible. Tous les gens qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans la construction, qui sont des gens pauvres, en fait. Ils ont tout perdu. Ils n'ont pas travaillé depuis 2 mois. C'est des millions de gens. Tout le monde travaille à salaire diminué. En fait, on entend les gens dans la rue, les jeunes Chinois qui disent, ah ben moi, je travaille, je sais pas, 30%, 40% de mon salaire. Moi, je gagne plus d'argent, je sais pas comment je vais faire. Notre propriétaire nous a donné un mois de loyer, donc on a un peu de sursis. Mais voilà. Ça fait 14 ans que je vis là. Mes fils sont nés ici. En fait, ma maison, c'est Pékin. Mais en fait, petit à petit, bah, avec la perte de mon travail, avec la perte du parti de nos revenus, et puis l'école des filles rouvre pas. Alors, on chuchote, mais si ça rouvrait qu'en septembre, alors on va rester encore 4 mois ou 5 mois ici, dans notre appartement à attendre. Donc là, on n'a plus que le revenu de mon compagnon. Et donc, c'est pas assez parce qu'en fait, la vie à Pékin est devenue très chère. Donc, les loyers sont chers, les assurances sont chères. On paye l'école. Est-ce qu'on a les moyens encore de continuer à vivre pendant 3, 4, 5 mois avec un seul salaire? Non. Est-ce que je vais retrouver quelque chose? Est-ce que... voilà, c'est toutes ces questions-là pour nous. Moi, je suis un peu inquiète parce que l'autre jour, mes filles sont allées au parc, etc. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai un peu peur que ça reflambe. Et si ça reflambe, ce sera, je pense, pas du tout comme la première fois. Parce que la première fois, les gens sont auto-confinés. Là, si ça devait reflamber, je pense qu'on aurait des mesures de confinement extrêmement sévères. Et j'aimerais bien que ça n'arrive pas parce que le contrôle qui s'est instauré ici depuis le début de ce virus, qui est un contrôle d'État, mais qui, à mon avis, est une espèce d'expérience à ciel ouvert de comment est-ce qu'on peut contrôler vraiment la population. Les rues barrées avec les gens qui prennent la température. Moi qui n'avais jamais sorti mon passeport ici, je ne peux plus me déplacer sans mon passeport. Maintenant, je ne peux plus rentrer dans un endroit sans qu'on scanne mon téléphone pour voir où j'étais ces derniers temps, etc. Et maintenant, les gens qui sont en quarantaine, leurs portes sont scellées par des espèces de trucs magnétiques reliés à la police. S'ils ouvrent la porte, il y a la police qui les appelle tout de suite. Moi, je veux pas vivre ça. Cette espèce d'hyper contrôle parce qu'il y a plein de mesures qui ont été prises qui n'ont plus rien à voir avec le virus. Mais en fait, je pense que c'est des choses qui vont s'installer et rester. Et j'ai très peur d'une reflambée parce que là, on va passer sur un contrôle terrifiant. On va se faire enfermer chez nous et ce serait terrible. Moi, j'ai 42 ans et je pense que je vais rentrer dans un nouveau monde après toute cette histoire.
C'était Le Corona vu d'ailleurs, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Roxane Poulain, Sarah Djeriwi et à nos 3 participantes, Sandra Cogut, Marianne Daquet et Inès Chen.